Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started for as low as $25 at weightwatchers.com.
All medications require eligibility and prescription. First month as low as $25 with a 12-month med plus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Section 4 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Lundi 20. L'amphithéâtre Turgot s'est enfin ouvert à mon impatiente curiosité. Il y flottait de chers souvenirs, qui aussitôt me transportèrent à mon oral de juin dernier. Inconsciemment, je suis allée m'asseoir à la place que j'occupais lorsque pour la première fois Jacques s'approcha de moi. Il me semblait entendre le son de sa voix. Je ressentais de nouveau l'impression de douce sympathie qui s'était éveillée en moi à ce premier contact de nos âmes. Tout entière à ce passé, je ne voyais rien, je n'entendais rien du présent. Pourtant, la voix du maître, ferme, sans être forte, agréablement nuancée, finit par captiver mon attention, puis ce furent les idées. Dans la salle du reste, un silence parfait témoignait de notre vif intérêt à tous. Ce n'est pas que la question traitée fût par elle-même très féconde en découverte, non, mais nous éprouvions comme une sorte de religieuse émotion à suivre ce drame de la pensée philosophique renonçant tout à coup à ses prodigieux enthousiasmes, à son vol audacieux, pour se replier sur elle-même et s'examiner sans voile. Le doute était né avec le grand Descartes. L'histoire de la philosophie critique allait nous faire parcourir une à une toutes les étapes de ce drame douloureux dans lequel notre raison bornée joue le grand personnage. À peine notre professeur eut-il quitté la salle, au milieu du brouhaha infernal de la sortie, que l'incorrigible Germaine s'écriait « Non, vraiment, ce n'est pas la peine de venir en Sorbonne pour entendre de telles banalités sur Descartes et son doute méthodique, Descartes et son rationalisme, Descartes fondateur de la philosophie critique, c'est ce qu'on trouve dans tous les manuels. » Un petit cercle se forma aussitôt autour d'elle, en haut de l'amphithéâtre. Il y avait Betty, Alice Bernard. Jacques s'était approché de nous. Quand il eut entendu les grandes phrases de Germaine, il me dit ces mots à voix si basse que je dus, pour les entendre, m'éloigner de mes compagnes. « Pourquoi votre ami tient-elle tant que cela aux nouveautés en philosophie? À mon sens, tout l'intérêt de cet enseignement réside dans la manière dont on expose les systèmes beaucoup plus que dans les systèmes eux-mêmes. Le maître fait plus que la doctrine. Or, je crois que nous venons d'avoir aujourd'hui un maître à la bonne manière, un convaincu d'ailleurs. » « De négation, oui, repris-je, de négation comme celle-ci. La métaphysique a fini son temps. La méthode déductive que préconisent les métaphysiciens est anti-scientifique. L'intuition, de quelque ordre qu'elle soit, sensible ou rationnelle, n'a aucun droit à la science. Tout cela est construction de l'esprit. Or, comme l'esprit ne crée que du relatif, l'absolu reste pour lui un domaine fermé. Mais il a raison, notre maître, m'objecta Jacques. Si la philosophie n'avait point pris résolument l'attitude qu'il défend, son divorce d'avec la science n'aurait fait que s'aggraver. Du coup, je me sentis trembler d'indignation, et sans plus songer à prendre congé de mes camarades qui continuaient à discuter, j'entraînai Jacques vers la porte et lui dis avec une chaleur qui parut le surprendre. « Vous aussi, Jémy, vous êtes de cette école-là. L'attitude critique est une attitude scientifique, sans doute, mais elle ne peut être que momentanée. » Voyez-vous un physicien, un chimiste ou un astronome qui passerait son temps à démonter ses instruments et ne s'en servirait jamais? La science n'avancerait guère. Ainsi de nos philosophes modernes. Ils en sont encore à démonter leur instrument, l'esprit humain, au lieu de s'en servir et de l'appliquer à un objet qui en vaille la peine. Oui, je sais la formule, tout est relatif, donc tout est indifférent, et l'on s'étonne que vous soyez, vous, les jeunes intellectuels, sans enthousiasme. Sans enthousiasme? Répartit Jacques. Et que faites-vous alors du généreux sacrifice de ces normaliens qui partirent 292 et revinrent? Je n'ose dire le nombre. Belle gerbe d'épi que celle de ces braves, mais fouchée trop tôt. Elle avait pourtant mûri sous le soleil de l'université sceptique. Non, pas sceptique pour eux, car ils avaient une foi, m'écriai-je tout ému. Cela croyait passionnément à la France. Mais est-il admissible qu'il faille de telles épreuves pour faire jaillir l'étincelle de l'enthousiasme qui est source de vie? Une expérience aussi tragique ne peut pas, ne doit pas se produire. Alors, où chercher un idéal qui épanouisse notre âme en force et en beauté si la méthode critique rejette l'absolu? C'est la négation de toute croyance, de toute foi. Impossible de croire à une vérité qui demain ne sera plus. Ce serait donner son âme à l'ombre qui passe, car il n'y a point de croyance sans le don complet de soi à l'objet de sa foi. Je m'animais de plus en plus et je sentais que Jacques était lui aussi très ému. Il n'essayait plus de me répondre. Il marchait en silence, assez près de moi pour que je sentisse par instant son bras effleurer le mien. Un même courant d'émotions nous emportait tous deux. Son âme vibrait à l'unisson de la mienne et cette fois, ce n'était plus sous le choc d'un amour égoïste, mais sous le choc d'un amour plus haut et plus grand, celui de je ne sais quel idéal. Nous étions arrivés ainsi à la porte de la maison. Nous nous taisions depuis un moment. En lui serrant la main pour prendre congé de lui, je ne trouvais plus un mot à lui dire. « Vous avez la foi, vous, » me dit-il alors simplement, « que vous êtes heureuse. Moi, je ne l'ai plus. La retrouverai-je jamais ?»« Croyez en mon amitié. Elle vous veut beaucoup de bien. » Ce fut toute ma réponse. Puis je disparus en courant sous la voûte, craignant de gâter par quelques paroles superflues la douce émotion qui me remplissait l'âme. Mercredi 22. Deux jours seulement se sont écoulés depuis que j'ai senti si près de la mienne l'âme de ce petit ami, et l'on dirait que ce sentiment est enseveli en moi. Mes jours sont trop chargés. Il ne me reste pas une heure de pensée libre, pas une minute pour échanger quelques idées. J'ai dû me rendre ce soir à ma leçon sans attendre la fin du cours. On l'avait avancé pour un rendez-vous de dentiste. Je n'ai fait qu'apercevoir Jacques, et le soir, mes notes à rédiger ne me laissent pas même le temps de me confier à mon journal. Jeudi 23. Ce matin, j'ai reçu une lettre de ma future élève, la petite Renée Labasse. Elle est au désespoir. Elle ne pourra commencer ses leçons qu'en janvier. Il lui est impossible de quitter avant cette date son hôpital. Trop de blessés réclament ses soins. Quelle belle âme! Elle a compris, mieux que nous, où était le devoir impérieux, sacré en ce moment, au chevet des blessés, à l'hôpital. Quant à nous, les sœurs Bonnardes, que faisons-nous pour leur payer notre dette? Ne sommes-nous pas des égoïstes? Au lieu de les soigner, nous continuons à préparer notre carrière. Une carrière d'intellectuel. Que vaut-elle en comparaison des vies que j'aurais peut-être sauvées par mes soins et mes veilles? Mais j'ai ma mère, mes petites sœurs, ai-je le droit de les abandonner? Ces chères petites, c'est de la vie aussi, de la vie qui vient. Il faut qu'on les élève, et ma pauvre maman ne pourrait y suffire seule. Je vais maintenant l'aider de mon argent. Quelle joie! Lorsque dans 15 jours je les aurai en main, ces 120 francs qui me coûtent tant d'heures de mortel ennui. Dimanche 26. Encore un dimanche qui passe, sans qu'il me soit possible d'aller chercher un peu de lumière auprès de ma chère lampe. Jacqueline a la rougeole. On l'installe dans ma chambre pour l'isoler de sa petite sœur. Adieu mon travail, adieu mon journal. Voilà l'épreuve. Je demandais à payer ma dette à la patrie en soignant des blessés, et voici que c'est auprès de ma petite sœur que je suis infirmière. Oui, il y a des tranchées aussi à l'arrière. Et si chacun savait humblement y remplir sa tâche, la France tout entière serait sur le pied de guerre. Dimanche 10 décembre. Voilà mon journal qui de quotidien devient hebdomadaire. Je n'ai plus le temps de rêver, car c'est bien un peu rêver que repasser ainsi dans son âme tout le jour écoulé. Mon imagination, entraînée par le flux et le reflux d'une mouvante sensibilité, doucement l'évoque. Ce soir, j'ai droit au repos, au rêve hebdomadaire. Ici, tout est calme. Jacqueline guérit. C'est le soleil revenu au foyer, c'est de la vie rayonnante, cette petite. Lorsque je vois près d'elle Geneviève, la petite dernière, toute de charme et de grâce dans sa fragilité, parlant peu, avec un cœur débordant de tendresse, je comprends la fatalité des destinées. Elle est écrite dans les caractères. Jacqueline, par ce rayonnement de vie qui déborde en elle, est appelée à dominer les autres. Elle sera apôtre, entraîneuse d'âme. Geneviève n'attirera pas. Elle se laissera attirer. Pourvu qu'un cœur désire atteindre le sien, elle trouvera à lui répondre car elle s'est aimée. Si je récapitule le travail de cette semaine à la Sorbonne, je n'y trouve que des cours en général assez ternes. Je crois que je n'ai rien appris de nouveau, sauf ces détails d'érudition qui resteront fixés surtout dans mes notes. 20 décembre. Ma vie de travail va enfin s'organiser. Nous avons décidé de mettre nos efforts en commun, Jacques et moi. Nous aurons donc une séance régulière de latin et de philosophie chaque semaine. Où se tiendra-t-elle ? Chez moi ? À la bibliothèque ? Resterons-nous tous les deux seuls ? Élargirons-nous notre cercle ? Nous déciderons cette grave question au retour des vacances. En attendant, j'ai de quoi réfléchir. On nous a proposé enfin un sujet de devoir qui va me mettre en plein dans les pensées que j'aime. Étudier du point de vue psychologique des moyens que les philosophes ont préconisés pour guérir les passions. Descartes, Spinoza, les stoïciens. Quelle riche matière ! À chacun de nous de rassembler les pierres de l'édifice. Moi, je vais glaner chez mes stoïciens, chez Descartes peut-être. À Jacques, j'abandonne le mathématicien Spinoza, le philosophe en théorème. Mon intelligence voit s'ouvrir devant elle maintenant un large champ d'investigation, et ma sensibilité enfin intéressée n'aura plus à s'égarer. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon équilibre, je suis redevenue simple et gaie, et j'ai permis à Jacques de m'accompagner à ma leçon. Comme deux enfants, nous avons fait l'école buissonnière. Il faisait nuit quand nous sommes sortis de la Sorbonne, par un beau temps sec et froid. J'ai proposé la marche à pied jusqu'à la rue Saint-Dominique. D'un pas rapide, nous avons monté le boulevard Saint-Michel, puis, comme nous tournions à droite, sans que j'aie eu le temps de faire aucune objection, Jacques m'a entraîné chez le grand pâtissier, en face de la fontaine Médicis. « Mais, Jacques, à quoi pensez-vous » m'écriai-je toute surprise. « À vous faire prendre une tasse de thé, reprit-il. Il fait froid, nous allons marcher, vous avez encore une heure et demie de classe à faire, il vous faut des forces. » Dans le coin, à droite en entrant, une petite table était libre. Nous nous y installâmes. À côté de nous, sur une petite chaise, nos deux serviettes fraternisèrent. Jacques, alors, d'un ton d'autorité joyeuse, commanda le thé, me demandant de choisir des gâteaux. Des gâteaux ? Un hiver de rue de guerre, il me semblait que c'était mal. J'essayais de récriminer, mais en vain. Et puis, cette petite fête inattendue me paraissait si douce que je me laissais faire. En face, l'un de l'autre, riant, plaisantant comme deux collégiens en vacances, c'était à qui s'empresserait de servir l'autre. On se partageait les gâteaux, on les coupait chacun en deux pour bien goûter les mêmes. Cette demi-heure passée là, sans autre incident que ces mille petits riens d'une dînette à deux, où l'on essaie de faire tout commun, le gâteau et le pain, le thé et le lait, fut un instant de vrai bonheur. N'y a-t-il pas là l'explication d'un symbole, manger à la même table, des mêmes aliments ? Parce que l'on s'aime, aimer les mêmes choses, faire tout commun, c'est la forme concrète d'une autre communion, celle des idées, des goûts, des sensibilités. Et ces deux formes ne sont que l'expression d'un seul sentiment, l'amour, s'il est profond, véritable, est une communion. Nous descendîmes alors la rue de l'Odéon pour gagner le boulevard Saint-Germain. Là, Jacques, regardant l'heure, me fit presser le pas. Il prit ma serviette pour que mes mains restassent bien au chaud dans mon manchon. Un vent rude nous fouettait le visage, mais je ne le sentais pas plus que la fatigue de cette marche un peu rapide. J'étais tout enveloppée, malgré la bise, d'une atmosphère douce et chaude. Je n'éprouvais même pas le besoin d'émettre une idée. Il me suffisait de sentir que je n'étais point seule. Et pendant toute ma leçon, qui fut pourtant comme toujours fastidieuse et longue, j'ai gardé cette douce impression. 23 décembre. Pour 15 jours, la Sorbonne est close. Avec la fête de Noël, l'étoile se pose sur les berceaux, sur la tête des tout-petits. La famille des intellectuels se disperse. C'est la famille tout court qui reprend ses droits. Nous retournons tous à la vie intime du foyer. Et Jacques, mon ami, part ce soir avec sa mère pour Nice, où il va, dans un hôtel à la mode, jouer le personnage de chevalier servant. Il avait le cœur brisé ce soir, en me disant adieu. Et moi-même, je n'ai pas pu lui cacher ma tristesse. Cette séparation me fait mal. Je le sais, elle me laissera un grand vide. Dois-je m'en inquiéter ? Il faut être sincère. Cette amitié tient maintenant une grande place dans ma vie, une place plus grande que je ne voudrais l'avouer. Alors, est-elle imprudente ? Coupable ? Une responsabilité très lourde pèse sur moi, car je suis l'aîné. Jacques est encore un enfant. Il entre dans la vie et la vie s'ouvre pour lui par des chemins si nombreux que je n'ai pas le droit de fixer son choix. Pour moi, c'est tout autre chose. Mon avenir n'a plus de mystère. Il est fixé. Notre carrière dans l'enseignement n'offre point de surprise. Elle est vouée au culte du vrai, du bien, qu'il faut aimer passionnément, si l'on veut être capable de le faire aimer aux autres. Vestale de l'idéal, à nous d'entretenir le feu du grand amour. Mais nous sommes perdus pour les autres amours. Jacques ne veut point admettre cette vocation, car il ne croit point au grand amour, il croit à l'amour. Il croit surtout à son amour. Il m'aime comme je suis et pour ce que je suis. Je lui donne raison quand j'y réfléchis. Qu'est-ce qu'un idéal s'il ne se réalise? Que serait pour moi l'idéal Dieu si je ne croyais pas au Christ, le Dieu qui se fit homme? 24 décembre, 11h. Les cloches ne sonnent point cette année. C'est le silence partout. Le silence dans ce grand Paris sans lumière. Le silence dans les foyers où trop de places restent vides. Dans les églises où les crèches ne s'illumineront point aux lueurs de la messe de minuit. Le silence dans les tranchées où veillent nos braves poilus. Ce même silence règne dans ma chambre, où cependant les quatre petits souliers rangés devant la cheminée me racontent maint désir, maint espérance. Ah, cette nuit mystérieuse qu'éclaire une seule étoile, celle de Bethléem, qu'elle soit rédemptrice pour notre France, qu'il nous sauve de l'ennemi, du noir démon du mal, celui que les anges saluent de l'hymne de gloire au plus haut des cieux. Si le monde entier pouvait s'associer à cette prière, si tous les cœurs, dans un seul élan, s'élevaient vers cet enfant Dieu, ce serait demain le règne de la justice et de la paix sur la terre. Fin de la section 4, enregistrée par Pauline Latournerie. Section 5 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 3. 25 décembre 1916. La bonne odeur de sapin grillé flotte encore dans ma chambre. L'arbre est là, sur une sellette improvisée, quatre pieds, une planche. Il est modeste, mais je l'ai préparé avec soin. Tout ce matin, sans une minute d'arrêt, j'attachais un à un à ses branches les 1000 petits riens qui allaient causer une joie folle aux enfants. Les fils de la Vierge, les pommes de pin d'argent et d'or jettent ce soir encore quelques vagues scintillements, mais les bougies éteintes et à demi consumées, les branches dégarnies, me donnent l'impression mélancolique d'un soir de fête. Dans ma chambre, je me trouve seule et triste. Pourquoi? J'ai pourtant joui pleinement de cette fête familiale, j'ai éprouvé jusqu'à l'enthousiasme cette joie, un peu orgueilleuse peut-être, de donner sans recevoir. Mon premier argent, comme il avait fructifié, à peine jeté en terre tel un grain de froment, il avait levé et j'avais déjà fait la moisson. Les rires et les cris joyeux de mes petites sœurs, les larmes, les douces larmes discrètes de ma mère, lorsque ce matin elle découvrit dans son soulier le billet de 100 francs que j'y avais caché, et le baiser de mon père, le baiser sur le front, long et fort, qu'il ne me donne que lorsqu'il est content et fier de moi. J'avais goûté toutes ces joies jusqu'au plus profond de mon âme, et maintenant, cette âme trop secouée vibrait encore, mais pour une autre cause. Inquiète, elle sentait au loin, à travers l'espace, une tendre émotion. Oui, je pensais à Jacques. Je l'aurais voulu là, près de moi, prenant comme un frère sa part à notre petite fête. Il n'a rien connu de ces joies intimes de la famille, lui qui n'eut pas de sœur, pas de mère tendre. Une immense pitié pour lui entra dans mon cœur. Comme une mère, comme une sœur, je voudrais l'aimer et le lui dire. Pourquoi ne lui écrirais-je pas? Sans doute il ne me l'a pas demandé, mais il m'a laissé son adresse. Grand hôtel à Nice. N'est-ce pas qu'il espérait un mot? Rien qu'un mot, ce n'est pas imprudent de l'écrire. J'écris donc. Mon cher ami, les enfants me quittent les yeux brillants, les mains pleines, le cœur joyeux. Je pense à vous comme à mes frères. Ni l'un ni l'autre ne sont revenus au foyer pour cette fête. Mais je pense à vous plus tristement qu'à mes frères. Ils ont leurs souvenirs du passé et un idéal qu'ils peuvent servir positivement dans le présent. Vous n'avez rien, ni dans le passé ni dans le présent. Votre cœur souffre. Qu'il se réfugie auprès du mien. Je suis votre sœur. Voulez-vous dire oui et me donner la main ? 26-27 décembre. Ma lettre partie, une paix profonde est descendue en moi. Mon inquiétude, le trouble de mon âme ont disparu. Je me mets à genoux avec confiance. Ce soir, mon âme accordée monte vers le principe de son harmonie. Je prie pour la nature entière, déchirée, violentée, désaccordée. Je prie pour mon ami que je veux sauver du chaos, en lui faisant un rempart intérieur, en l'amenant à celui qui fut l'humaine et divine harmonie. 28 décembre. Quel bouleversement dans ma chambre ce soir! On y étouffe. Odeur de fleurs, de cigarettes, de pain grillé, de pâtisserie, d'alcool. Mon divan n'est qu'un amas informe de coussins et de livres pêle-mêle. C'est que me voilà au soir de ma première réception. Maman a voulu aujourd'hui me donner l'illusion que j'étais vraiment chez moi. Elle m'a permis de recevoir dans ma chambre, comme un étudiant, mes camarades de cours et de les choisir à mon gré. J'ai pris de l'importance maintenant que je gagne un peu d'argent. Ah, si l'on savait ce que valent ces joies de véritable indépendance que donne le travail, comme le travail deviendrait une loi, une douce loi pour tous. J'avais donc transformé ma chambre en un véritable petit salon. J'ai supprimé mon lit, du sommier et du matelas qu'on m'avait installé comme couchette pendant la maladie de Jacqueline, j'ai fait un divan. Maman m'a laissé piller toutes ses reliques, vieilles étoffes aux teintes un peu passées, anciens rideaux ou portières qui lui venaient de la maison paternelle, cretonnes aux guirlandes de roses encadrant bergers et bergères. Tout ce mélange faisait merveille sur ma table de travail, sur mon divan, ou bien tendu sur les planches de bois blanc de ma petite étagère. Cet ensemble de couleurs, presque disparates, se fondait harmonieusement sur les coussins entassés. J'étais fière de mon œuvre, car j'en étais vraiment l'auteur. Pour installer ce petit coin, j'avais fait moi-même le tapissier. Je me découvris donc des qualités de maîtresse de maison, d'organisatrice que je ne soupçonnais pas. Car c'était avec un seul louis qui m'était resté, après mes largesses, que j'avais pu faire ces embellissements. J'avais des fleurs. L'odeur des œillets et des mimosas montait même un peu à la tête. En attendant mes invités, je préparai le thé sur la petite table qui me sert de bureau. Maman nous avait fait un beau glouglouf, comme on en fait en Alsace. Il sentait délicieusement bon. Germaine arriva la première. Elle témoigna à grands cris son étonnement, son admiration. Elle me salua du titre de princesse. « Un divan, des fleurs, peste ma chère. Et à quand le prince ?» Je rougis un peu sans savoir pourquoi, inconsciemment. Je crus sentir une allusion. Je me trompais. Germaine n'en était pas capable. Elle passa d'ailleurs très vite à un autre sujet. « Tu sais, Mad, à la Sorbonne, ça se gâte. Un bec de gaz indiscret m'a dévoilé l'autre soir... deux de nos camarades, Gretchen et Kant, qui s'embrassaient. Dans la rue, des philosophes. Voyons, Mad, n'y a-t-il pas moyen pour la femme qui pense de se passer de ça? Pour l'homme encore, je le comprends. Il est tellement sollicité par sa nature et par tant de femmes imbéciles qui lui font la cour, qu'il va où l'amour l'appelle. Mais pour la femme qui se fait forte de philosopher, c'est humiliant, c'est bête. De quoi avons-nous l'air de crâner ainsi en parole? De discuter des grandes questions morales, sociales, métaphysiques, et de nous conduire comme de petites grues. Mais je n'écoutais plus la dissertation de Germaine. J'étais follement amusée par la vision de Gretchen et de Kant s'embrassant sous un bec de gaz. Je demandais des détails, mais je n'eus pas de réponse car Alice Bernard entra. Elle était délicieuse dans son petit costume de velours noir. Un grand renard blanc, jeté un peu en arrière, laissait voir le cou et encadrait son joli visage. Une toque de velours, comme un bonnet, lui prenant les oreilles, se confondait avec ses cheveux noirs et faisait mieux ressortir son teint mat et ses grands yeux bleus. « Que vous êtes élégante et jolie aujourd'hui, Alice !» m'écriai-je en lui serrant la main. « Que votre chambre est bien arrangée » répliqua-t-elle. « Vous avez supprimé le lit, quelle bonne idée ! Oh, la jolie cretonne avec son petit air vieillot ! Où l'avez-vous donc trouvé ?» Germaine nous regardait avec commisération. Nous étions prises par des chiffons, par des détails indignes de philosophe. Son œil dur semblait nous le dire. Moi, au contraire, j'étais ravie de ces réflexions de la pauvre Alice. Je l'aimais vraiment, je l'admirais, je la plaignais. J'étais heureuse de sentir qu'elle reprenait goût à la vie en s'intéressant à des futilités. Et lorsque Betty fut arrivée, et que toutes quatre nous eûmes avalé notre première tasse de thé et mangé d'un fort bel appétit notre délicieux glouglouf, Un courant de douce sympathie s'établit entre nous. Autour de la bouilloire qui chantait, en vrai petit soldat au repos, la cigarette ayant simplement remplacé la pipe, nous avons discuté sur le présent, sur notre travail, la guerre, mais aussi et surtout sur l'avenir. Nous avions toutes quatre les yeux fixés sur cet avenir, car nous sentions que notre tâche y serait lourde, puisqu'elle prenait maintenant déjà pour certaines de nos compagnes une importance singulière. Plusieurs de nos anciennes avaient déjà été appelées dans les collèges de garçons pour remplacer les hommes partis pour le front. C'était une expérience que l'on avait tentée, une expérience qui pouvait être décisive pour l'avenir du féminisme, du bon féminisme que nous voulions. La femme se montrerait-elle capable de former des hommes, au sens large du mot ? En ce qui concerne l'intelligence, cela pour nous ne faisait aucun doute, puisque l'on exigeait d'elle les mêmes diplômes. Quant à la sensibilité, qu'elle soit d'ordre esthétique, moral ou religieux, c'était autant de domaines où la femme était sûre d'exercer son empire. Mais en fait d'énergie, aurait-elle ce qu'il faut ? Ce qu'il faut, par exemple, pour tenir une classe de 20 à 30 gamins de tous les âges ? Moi, j'opinais résolument pour l'affirmative, car il me semblait que j'aurais eu assez de volonté pour tenir tête à 40 gamins le cas échéant. Germaine hochait la tête. Elle ne voyait notre succès assuré que par une écrasante supériorité intellectuelle. Betty allait se ranger à mon avis, lorsque la porte s'ouvrit, et Marie Le Sage, une de nos anciennes camarades du collège de Stahl, entra. Elle avait été chargée à la rentrée d'octobre des cours de sciences physiques et naturelles au collège de garçons de C. « Quelle bonne surprise ! » m'écriai-je en la voyant entrer. « Vous avez donc pu venir à Paris malgré la difficulté et la longueur du voyage ? Mais comme vous avez bonne mine !» En effet, je ne l'avais jamais vue si fraîche, avec tant d'éclat dans les yeux. « Mais on dirait que vous revenez de villégiature. »« Villégiature bien remplie, » reprit-elle en souriant. « On s'y entend dans l'université à nous combler d'heures supplémentaires sans les payer. Si vous saviez ce que j'ai de travail, de copies à corriger, mais peu importe. Je suis si contente de mes grands gars, je les aime tant, que loin d'éprouver aucune fatigue à ma tâche, je ressens au contraire toute la joie enivrante d'agir, de faire œuvre patriotique et bonne, en formant des intelligences et des cœurs de jeunes Français. « Mais alors, vous les tenez, vos gamins ?» objecta Alice, qui avait assisté jusque-là et indifférente à notre débat. « Si je les tiens, je le crois bien, » reprit Marie Le Sage. « Et ce ne sont plus des gosses. J'ai toutes les classes de sciences, depuis la troisième, y compris celle du baccalauréat lettres et sciences. Je suis chargée du laboratoire, je prépare et fais moi-même mes expériences, et je vous assure qu'alors, même que j'ai le dos tourné et que je suis occupée, pas un ne bronche. Pourtant, ils ont essayé le chahut à ma première classe. Ils étaient entrés d'abord en bon ordre dans la salle. Un à un, ils avaient gagné leur place dans l'amphithéâtre. Le principal les accompagnait. Il tenait à présenter lui-même ses élèves à leur nouveau professeur, une femme. Mais tout à coup, comme je commençais mon cours, un bruit étrange comme un coup de sifflet retentit, puis de petits rires étouffés. Je m'arrêtai net, et me levant, je leur dis « Messieurs, si pareil fait se renouvelle, si j'entends encore le moindre bruit, je quitte la salle et n'y remettrai plus les pieds, et l'on dira que vous n'avez pas été capable d'une heure de discipline, tandis que vos aînés, vos frères, se battent jour et nuit. » En prononçant ces mots, sa petite tête aux yeux perçants comme des vrilles, à la bouche souriante, mais un peu moqueuse, prit une telle expression d'énergie que je compris parfaitement l'impression qu'elle avait dû produire. En effet, elle nous raconta qu'elle n'eut plus, à partir de ce moment, aucune observation à faire. Ses élèves sont doux comme des agneaux, elle en fait ce qu'elle veut. Elle les soigne quand ils sont malades, elle est à la fois le professeur, la sœur, la mère. Non, elle n'y a pas à s'y méprendre, notre vocation est là. La véritable voie ouverte au féminisme, c'est celle de l'enseignement. Qu'on nous y laisse la marche libre, il n'y a point d'écart à redouter. Nous avons pour nous guider, d'une part, le sentiment de la responsabilité que développe en nous la haute culture, de l'autre, nos facultés naturelles d'intuition qui nous révèlent l'âme des enfants, des adolescents et nous permettent de l'épanouir. Germaine a beau dire, plaider la cause du développement intellectuel à outrance qui ferait de la femme l'égale de l'homme par ce seul fait qu'elle l'écraserait de sa science, je crois que ce serait une erreur complète. La femme ne sera l'égale de l'homme qu'à la seule condition qu'elle ne perde rien de ses qualités de femme tout en développant son intelligence dans la même mesure. J'ai plaisir ce soir à retrouver l'image de Marie Le Sage. Elle me fait du bien. Je vois en elle un peu de mes rêves réalisés. J'ai toujours cru, moi,
à notre vocation d'apôtre, destiné à préparer à la vie les générations de l'avenir, hommes aussi bien que femmes. Quelle noble mission! N'est-ce point du reste celle que je cherche à remplir auprès de Jacques? Il m'intéresse certes pour l'amitié qu'il m'inspire, mais n'y a-t-il pas aussi dans ce sentiment que j'éprouve pour lui un peu d'amour maternel? Il a besoin de moi, et c'est bien doux de se pencher vers ceux que nous sentons faibles. Il doit avoir ma lettre maintenant. Avec quelle émotion il a dû l'ouvrir après avoir reconnu mon écriture sur l'enveloppe! Comme il me tarde de connaître ses impressions! Dans 2 jours, demain peut-être, j'aurai la réponse. 29 décembre. Journée de travail aujourd'hui. Je me suis mise bien en face de mes stoïciens. Ils sont admirables. Ce calme, cette maîtrise de soi, cette confiance en l'ordre universel, telle serait la vraie formule de vie si nous n'étions qu'intelligence, que raison pure. Mais notre sensibilité est là, exigeante, et qui veille. On n'en fait pas ce qu'on veut. À preuve, mon émotion aujourd'hui. À chaque courrier, mon cœur battait à se rompre, le sang montait à mes joues. Dites-moi, que faire contre cela, mes chers stoïciens? J'ai beau me répéter « Fantasia, fantasia ». Imagination, imagination vaine. Le tumulte persiste en moi et mon cœur ne se calme point. C'est qu'il faut un autre remède que le mépris pour tuer un sentiment ou une passion. Il faut le priver de nourriture. Par conséquent, si j'eusse voulu oublier Jacques, ou au moins ne pas donner trop d'importance à ce sentiment qui naît, je n'avais qu'un remède, ne pas lui écrire. C'est tout le contraire que j'ai fait. J'ai suivi la logique du cœur au lieu de suivre celle de la raison. Pourquoi? Parce qu'il est trop tard déjà. Mon cœur veut plus fortement que ma raison. Et mon cœur, c'est toute mon âme qui veut s'exprimer et vivre. 31 décembre. La lettre tant attendue était là, au premier courrier du matin. J'ai reconnu la petite écriture serrée, un peu informe, aux mots à peine séparés. Il y a du vague dans cette écriture. De l'intelligence, beaucoup de sensibilité, mais quelle faiblesse! Pourtant elle m'a ému si fort, cette lettre, que je veux la garder. Voyons, que je la relise avant de la confier à mon journal. Chère amie, chère grande sœur amie, qu'avez-vous donc fait pour que depuis 2 jours, tout se soit transformé en moi, autour de moi? Sans doute vous avez senti le désarroi de mon cœur pour venir ainsi, doucement, tendrement, vous pencher sur moi. Merci, vous avez fait une bonne action. Si vous saviez quelle était ma détresse ici aux premières heures. Tout me choquait, cette mer trop bleue, ces rochers trop roses, ce ciel sans nuages, ce soleil brûlant, cet air amollissant qui vous incite à la joie de vivre alors que tant d'hommes luttent douloureusement sous la pluie, dans la boue. Et puis, ces parfums qui sortent de terre à la tombée de la nuit, que les fleurs répandent enivrant dans les jardins, et cette brise douce qui monte de la grande mer le soir et vous caresse. Tout cela parle d'amour et je sens alors mon cœur angoissé et vide. Pourtant, non, mon cœur n'est point vide. Votre image le remplit tout entier, mais avec cette angoisse que mon image pour vous doit être à peine distincte. Vous m'avez écrit en m'offrant une amitié de sœur. Suis-je vraiment digne d'être de votre famille d'âme? Je n'ai point votre belle énergie, votre force morale, votre admirable raison, votre enthousiasme qui révèle en vous cette grande puissance d'aimer, d'aimer tout et peut-être personne. Moi je suis un faible, qui ne trouve de l'énergie que par intermittence, sous le coup d'une secousse morale ou poussé par quelque amour qui m'entraîne en haut ou en bas, suivant la qualité de son objet. C'est donc à vous, à la sœur qui s'offre à moi et peut m'entraîner vers le bien, que je fais l'aveu de ma faiblesse. Par vous, je sens que je puis devenir meilleur et, puisque vous le permettez, c'est sur vous que je m'appuierai. Ces lignes me donnent à la fois de la crainte et une noble fierté. Le pauvre enfant, comme il me croit meilleur que je ne suis. Pour lui, il faudra que je sois forte, mais où puiser cette force, les jours où je me sentirai faiblir? Les cloches sonnent à toute volée à Saint-Jacques, c'est le salut solennel de fin d'année. Maman vient de partir avec Jacqueline. En m'embrassant, elle m'a regardé avec une pressante et muette prière dans les yeux. Elle me demandait de la suivre. Que pouvons-nous faire de mieux que prier, à cette heure solennelle où finit une année, oui, une année grave, lourde, pour faire place peut-être à une année plus grave et plus lourde encore? Je vais prier, mais seul, dans ma chambre, devant ce vieux Christ en bois de rose que grand-mère me laissa en mourant. Que lui demanderai-je ? De la force harmonieuse. Je sens vaguement qu'il m'en faudra beaucoup, qu'il en faut au monde pour lutter contre la bête déchaînée. Il nous en faut à chacun, individuellement, au milieu de cette terrible tourmente, pour remplir notre tâche à l'arrière. Mais il m'en faudra plus encore, dans cette amitié qui s'ébauche, en me donnant toute la joie de la découverte, l'attrait du mystère, mais pour laquelle je suis sans expérience. Que deviendra ce sentiment que je goûte doucement, tandis qu'il ne demande qu'à s'épanouir passionnément ? À moi aussi, il me faudra un guide, le Christ et la prière, et puis demain, la lampe qui éclaire. Fin de la section 5, enregistrée par Pauline Latournerie. Section 6 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. 1er janvier 1917. Cette fois, je suis seule dans la petite salle à manger. Personne qui attende, donc personne à passer avant moi. Marie, la petite servante à lunettes, à qui je demande si mademoiselle est là, me répond que mademoiselle n'est pas encore revenue de la messe, mais qu'elle ne va pas tarder. Au même moment, la clé grince dans la serrure, et j'entends cette voix, dont le timbre clair vous met toujours de la joie au cœur, s'écrier « Marie, vite mon chocolat, n'y a-t-il encore personne ?»« Il y a quelqu'un, » reprend Marie, « la jeune fille qui venait le jeudi l'an dernier. » Et aussitôt la voix au timbre clair de s'écrier en s'approchant vers moi. « C'est vous, Mad, vous allez assister à mon déjeuner. Je reviens de la messe où j'ai communié. Je voulais commencer l'année en union avec le divin. Voyez-vous, nous ne prenons vie qu'en participant à la vie. » Et comme je ne répondais rien, elle m'embrassa en riant et ajouta « Et vous, Mad, vous n'avez pas songé à vos devoirs de chrétienne ? Je parierais que vous n'avez même pas été à la messe, petite païenne. Oui, je sais, vous aimez mieux prier dans votre chambre devant votre crucifix. J'ai été longtemps comme vous. Et puis j'ai fini par comprendre qu'il fallait non seulement appeler le divin, mais le vivre dans l'union complète, chair, esprit, par notre communion eucharistique. En union avec notre Christ, j'ai donc commencé 1917. Et je me sens des forces pour porter sur mes épaules le poids d'une nouvelle et peut-être bien lourde année. » Elle achevait ce petit discours lorsque Marie entra, apportant sur un plateau recouvert d'un coquet napperon de broderie et de dentelle une tasse de chocolat fumant avec de petites tartines de pain grillé et beurré. « Que je me sens de l'appétit !» dit mademoiselle Claire en se mettant à table. Et sa figure exprima alors une telle joie de vivre, saine, harmonieuse et pleine, que je pensais en la regardant, elle a trouvé l'équilibre, l'accord parfait entre l'humain et le divin. Qu'ai-je besoin d'autre chose que de la suivre ? Elle me donnera son secret. Sans doute, deux vies ne se répètent pas plus que deux états d'âme, mais lorsqu'un même idéal les éclaire, les chemins où elles se déroulent se font parallèles. « Comme vous avez l'air songeur aujourd'hui, petite Mad, » me dit-elle tout à coup. « Voyons, qu'y a-t-il de nouveau ? Faites-moi votre confession. » Et comme je répondais vaguement, en me dérobant, en parlant surtout de mon travail, de mes études, elle comprit qu'il se passait quelque chose de grave, que mon cœur très gros avait besoin de se dégonfler avec des larmes peut-être, une tendre effusion tout au moins. Rapidement, elle acheva son déjeuner et m'emmena dans son cabinet. Là, elle me fit asseoir sur le divan à côté d'elle, et me prenant la main, elle la serra très fort dans la sienne, comme si toute son affection pouvait s'exprimer de la sorte. Puis, me regardant tout droit dans les yeux, elle dit « Voyons, Mad, il y a quelque chose. Vous souffrez, votre cœur est pris, dites-le-moi, vous savez bien que je comprends tout. » Et alors, je ne sais par quel miracle, en tout cas, poussé par une force invincible, sans le moindre respect humain, avec une sincérité absolue, je lui ouvris mon cœur. Tout d'une haleine, je lui ai narré cette histoire de mon amitié avec Jacques, la curiosité de mon esprit et de mon cœur, les discussions philosophiques, les retours ensemble le soir à la nuit, les confidences, la correspondance échangée pendant ses vacances et puis, ce qui me semblait plus grave, la pensée de cette amitié qui ne me quittait plus. Tout haut, je fis donc mon examen de conscience, me jugeant comme il fallait, avec sincérité, sévérité, reconnaissant mes faiblesses de cœur. J'étais l'aîné, j'aurais dû veiller. J'avais bien un jour fait ma profession de foi, posé mes conditions, tracé des limites aux sentiments que je sentais trop passionnés, mais bien inutilement. Sans doute il eût mieux valu rompre. En disant ces mots, j'interrogeais, anxieuse, le regard profond de ma grande amie qui restait fixé sur moi, avec une expression de tristesse.
« Rompre, fit-elle, lorsque vous étiez déjà à l'amour, à demi conscient, vous ne le pouviez plus. C'était trop tard pour vous, trop cruel pour lui. Et puis, Maad, voyez-vous, il est si rare de rencontrer dans la vie un amour sincère et véritable qu'il ne faut pas le repousser lorsque loyalement il vous tend la main. On ne passe pas deux fois par le même chemin, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, disait le vieil Héraclite. Comprendre l'amour quand il est trop tard, ou le regretter quand il n'est plus, c'est un sentiment d'une tristesse infinie que je voudrais vous épargner, petite Maad. »
Et les yeux de la chère lampe se voilèrent, sa voix trembla. Un souvenir pénible assombrissait son âme. Je lui pris la main et l'interrogeai avec une tendresse inquiète.
« Vous avez souffert, je le sens. Dites-moi votre peine, chère grande amie. Il me sera doux de la partager, j'en oublierai la mienne. »
« Oui, Maad, j'ai souffert et souffre encore de regrets, de remords. Enfin, de ce sentiment très complexe d'avoir laissé passer l'amour et d'avoir causé beaucoup de souffrance. Ne m'en demandez pas plus. Mon cœur est trop meurtri. Il a besoin d'oublier. J'ai été une absolue, une intransigeante, peut-être une orgueilleuse. C'est l'écueil où nous nous brisons, nous les intellectuels. Ne faites pas comme moi, petite Maad. Soyez simple, compréhensive, indulgente, aimante. L'amour passe. Ne le laissez pas s'en aller. » Elle se leva alors, m'embrassa. Elle était redevenue la lampe sereine qui éclaire. J'éprouve ce soir le calme et la sérénité d'un beau soir d'automne. Tout est douceur, apaisement en moi. Je sens vaguement que l'hiver va venir, souffler en vent de tempête, mais j'ai si chaud encore que je n'ai pas peur. La brise du soir est tiède, elle m'enveloppe, me pénètre. Je me laisse prendre au charme de ce calme divin. Ô chère lampe, c'est à vous que je dois cet apaisement de mon âme. La vôtre se communique, elle est si élevée, si douce, si forte. Et puis maintenant je le sais, je l'ai senti dans cette minute inoubliable où votre vie s'est révélée à moi, où votre cher regard s'est assombri. Elle est faite de tant de renoncements. C'est parce que vous avez souffert et su souffrir. C'est parce que vous avez passé, comme nous, par les étapes des cœurs passionnés et vibrants, que vous savez si bien nous comprendre. 7 janvier. Toute une semaine s'est passée sans écrire. Toute une semaine où j'ai vécu une vie bonne, gaie, saine, active. La sentimentale que j'étais il y a 8 jours est disparue. Je n'ai plus besoin de rêver. Je n'ai plus ni crainte, ni espérance excessive. Tout simplement, je vis. Voilà le vrai moyen de nous sauver, Jacques et moi, de cette rêverie dangereuse qui use les forces de l'âme en augmentant sans cesse ses capacités de jouir et de souffrir. Vive les âmes simples! Vive mes 2 chers poilus qui m'ont apporté du front cet air de santé qu'on puise dans la vie des tranchées, où tout se simplifie, où triomphe l'âme collective, où s'unifient tous les désirs, toutes les craintes, toutes les espérances, dans un seul et immense désir, celui de vaincre. Il semble en effet que depuis qu'ils sont là en permission dans la maison tout entière se répand une atmosphère de sérénité forte qui vous fait la poitrine plus large, les poumons plus dilatés. Journées inoubliables qui ont été les meilleures que j'ai vécues depuis 3 mois, où je n'ai plus pensé à moi, où j'ai vécu de la vie de ceux que j'aimais, où j'ai admiré et me suis senti vraiment meilleure. 8 janvier. Ce matin au petit jour, mes chers soldats nous ont quittés. Redoutant l'attendrissement des adieux, ils avaient essayé de se préparer sans bruit pour ne pas troubler notre sommeil. Mais nos cœurs veillaient, et comme si nous nous étions donné le mot, nous étions tous debout pour le départ. Ils étaient gais ou feignaient de l'être. Nous, nous avions l'âme déchirée. Elles allaient recommencer ces angoisses de l'arrière, attendre fiévreuses du courrier, du communiqué, matin et soir. Nous allions revivre douloureusement la guerre. C'était dans l'ordre, et un juste retour. Pendant 8 jours, nous l'avions presque oublié. Ma vie a repris son cours. J'ai retrouvé mon petit crétin d'élève. Sa paresse n'a fait qu'empirer. J'ai repris aussi le chemin de la Sorbonne, revu les camarades, Alice Bernard, Betty, Germaine Clotte. Jacques manquait. Il n'est pas revenu. Dans 8 jours seulement, il regagne Paris. En résumé, mauvaise journée, où j'ai beaucoup trop souffert de ce cœur sensible que je voudrais bien étouffer. Le départ de mes frères, la reprise de mes leçons dans un milieu qui nous comprend si mal, l'absence de Jacques, autant de causes de tristesse dont j'ai senti l'effet et qu'il faut supporter. Du stoïcisme, l'oubli dans un travail acharné, voilà le remède. Demain, ce soir même, je me jette dans l'étude sans une minute de répit et je n'aurai plus le temps d'entendre battre mon cœur. 9 janvier. Eh bien, je m'y suis mise au travail, aujourd'hui, pleinement, sans une minute d'arrêt, comme je l'avais résolu hier. Certes, je n'ai pas eu le temps de rêver, ma pensée s'est maintenue dans le même champ de lumière. Suis-je plus heureuse? Ai-je moins souffert? Je ne sais que répondre. J'ai laissé dormir toute une partie de moi-même. J'ai tâché d'oublier que j'avais un cœur qui voulait battre à l'unisson d'un autre cœur, que j'avais en moi de grandes puissances d'aimer, et au lieu de me donner aux autres, je me suis donné aux idées. Il y a beaucoup d'entrain à la Sorbonne en ce moment. Nous sentons toutes que c'est le trimestre définitif qui commence et qu'il va falloir sérieusement travailler. Betty même, l'antiphilosophe Betty, s'est chargée d'une leçon sur l'attention. L'attention est-elle une idée fixe qui se réalise? Elle était tout émue lorsqu'elle s'est approchée de la chaire pour inscrire son nom. Mais qu'elle était donc jolie avec sa mine embarrassée, ses joues rouges, ses longs cils baissés. Je crois bien que cette fois, notre impassible maître, derrière son binocle, eut pour elle un regard charmé, car avec un sourire, il la remercia. 10 janvier. Germaine était en veine de discussion. Je ne suis rentrée qu'à 7 heures et pourtant je n'avais pas d'élève aujourd'hui. Cette idée que Betty allait faire une leçon lui trottait par la tête. Je crois qu'au fond, elle regrettait fort de n'en avoir point pris l'initiative. Il y va, paraît-il, de l'honneur du collège de Stahl, dont nous sommes à la Sorbonne les 4 représentants. « Eh bien, Betty, » dit-elle, tandis que dans la pénombre nous traversions la salle des pas perdus. « Avez-vous déjà songé à votre sujet? Il est gros de conclusion. Il faut nous faire une de ces leçons qui étonneront les hommes et qui montreront que nous sommes capables d'une autre logique que la logique affective, car nous reconnaissons la force de l'idée qui mène le monde et nous mène aussi, nous, les femmes. « Qui nous mène? Ah non !» reprit Alice Bernard avec son sourire grave. « Je ne veux pas plus être l'esclave des idées qui circulent dans le monde que l'esclave de mes propres sentiments. Si vous voulez montrer que la femme n'est point victime de la logique affective, montrez-la douée d'une force qui accueille ou rejette les idées auxquelles elle veut ou ne veut pas consentir. » Mais Alice a raison, s'écria Betty. Il faut faire la chasse aux idées comme on l'a fait aux perdreaux et aux fauves. Des premiers on se nourrit, donc on les accueille. Les autres sont dangereux, on les détruit. Et de ce double mouvement naît l'attention, conclut Alice. Bravo, Betty, vous devenez philosophe. Pourquoi pas, reprend Betty. C'est bien plus simple qu'on ne le pense, la philosophie. C'est du bon sens un peu aiguisé, et tous ceux qui comprennent la vie comprennent aussi la philosophie. Seulement, il y a la théorie, et Germaine vous dira que pour expliquer l'attention, il y a 3 systèmes. Allons, Germaine, la théorie. Et en disant cela, Betty riait avec ses yeux, son nez, toute sa jolie petite figure. Germaine haussa les épaules et marmotta. La théorie, mais oui, il y a la théorie. Et c'est pourquoi les philosophes ont écrit des livres et pourquoi nous sommes à la Sorbonne en train de les étudier. Tenez, vous n'y comprenez rien, Betty, ni vous non plus, Alice. Vous resterez toujours dans le banal, puisque vous ne voulez pas dépasser le vulgaire sens commun. Avec Mad, je puis m'accorder. Elle sait discuter. Elle croit aux idées, à leur puissance. Cela dépend, Germaine, dis-je. Sans doute je crois à la force des idées, mais je n'y crois pas absolument. Nous ne sommes point des récepteurs passifs et insensibles. Je vais vous donner un exemple que je n'aurai pas à chercher bien loin. Je vais vous raconter ma propre histoire. Vous êtes toutes d'avis, n'est-ce pas, que le cours sur la monade parfaite de Leibniz a été aujourd'hui des plus intéressants. « Oui, oui !» s'écrièrent-elles toutes ensemble. « Eh bien, je vous avoue à ma honte que je n'en ai rien retenu. Je ne pouvais pas faire attention. Les idées étaient là pourtant, qui me sollicitaient par leur valeur propre, mais je n'y répondais plus. C'est vrai. Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire attention. » Je n'entendais qu'inconsciemment la voix du maître, j'écrivais comme une automate, et je voyais, comme dans un mirage, une mer très bleue, des rochers très roses, sous un ciel ardent, et Jacques et sa mère, se promenant sur la plage aux palmiers verts. Non, il n'y a point d'illusion à nous faire. Le grand facteur de l'attention, c'est encore notre cœur, notre vie affective, diront les philosophes. Mais notre vie affective, lorsqu'elle est une, orienté vers un objet qui l'attire comme un aimant. N'est-ce point notre âme tout entière qui se réalise, qui veut parce qu'elle aime, et que l'amour seul crée la volonté et la vie? Allons, soyons sincères. Si Jacques avait été près de moi, si j'avais senti à côté de la mienne son âme tendue par le même effort vers les mêmes idées, je les aurais aimées pour lui, avec lui. J'eusse été attentive. Jacques est donc le grand ressort de ma vie affective, de ma volonté. Voilà ce que me dit ma faculté d'analyse, mon esprit critique tourné vers le dedans. Chère lampe, croyez-vous que, constater cela chaque jour en son cœur, comme le médecin atteint d'une maladie en suit graduellement la marche funeste, soit une sauvegarde? Peut-être, si la maladie n'est point mortelle, si le sentiment n'est point passion, s'il reste encore quelque liberté pour lutter contre le mal. Ma liberté à moi, c'est la volonté du bien par le travail. Il faut que toute la joie que nous éprouverons l'un près de l'autre soit un puissant levier d'attention au bien. Alors, notre amitié sera durable et féconde. Fin de la section 6, enregistrée par Pauline Latournerie. Section 7 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Jeudi 11. Je me suis levée la première ce matin. C'était dur. Ma chambre a été faite en un tour de main, le déjeuner de même. Puis je suis allée embrasser les petites dans leur lit. C'est jeudi. Elles feront grasse matinée, car elles n'ont pas de cours. En hâte, je descendis la rue Galussac, et coupant la rue Soufflot, je débouchai rue de la Sorbonne. Il n'était pas 9 heures quand je m'engageai sous la voûte en face de Croville-Morand. Je montai le grand escalier de pierre, désert encore. Il fallait attendre la sonnerie de 9 heures pour entrer. Je pus donc m'arrêter quelques instants dans le vestibule. 2 grandes fresques, à droite et à gauche, attirèrent mon regard. À droite, une femme, drapée d'un long voile noir, au regard pensif, fixait la terre. À ses pieds, cette inscription. Science. Symbole de la recherche, du patient labeur, pensais-je. C'est à la terre que le savant arrache ses secrets. À gauche, une fresque. De même grandeur, représente une gracieuse jeune fille. Ses yeux clairs regardent le ciel. Elle est entourée de fleurs, baignée de lumière. Une grande inscription. L'être explique le symbole. Comme il est vrai. C'est bien un peu du ciel que nous ouvre le commerce des lettres, avec leurs splendides aperçus sur l'éternel humain. Il n'a pas changé. De Platon, Zénon, à Descartes, à Leibniz, à Spinoza, c'est toujours cette même âme qu'alourdit la pesante et décevante réalité, mais que le rêve, rêve de poète ou de métaphysicien, emporte vers des régions inondées de clarté dans l'espace infini. À cette pensée, je remercie le destin de m'avoir donné une âme qui me permette de regarder en haut. Nous nous perdons parfois dans les nuages, mais ces nuages sont toujours dorés de la lumière du soleil de vérité qui se joue au travers. Je me sens de la joie. Mes livres, mes chers livres, la pensée ailée d'un Platon, profonde d'un Aristote, solide et vraie d'un Épictète, oserais-je me plaindre avec de tels amis? Il me faut au contraire bénir une destinée qui m'a permis, après des siècles de distance, de lier commerce avec des âmes de cet ordre que l'on n'approche jamais sans se sentir amélioré. J'entre dans la salle vide comme si j'entrais dans un temple. Il me prend une sorte de crainte respectueuse. Je consulte les fiches, mais avant de prendre les volumes qui me sont nécessaires, j'en touche d'autres, et j'en éprouve une joie véritable. Est-ce une curiosité de bibliophile? Non pas, je ne m'y connais guère en fait d'édition, et celles qu'on laisse à notre disposition dans la salle n'ont rien de rare. Non, ce qui m'attire, c'est la curiosité que j'ai des âmes d'élite. À feuilleter ainsi, au hasard, les livres de nos grands classiques, car ce sont ceux-là que d'instinct je recherche, je sens que je ne perds pas mon temps. C'est un lambeau de leur âme que j'arrache en passant, un peu de nourriture substantielle qu'en un instant j'assimile. Mais il fallait me mettre au travail, le temps passait. Je pris mes auteurs, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, une bonne histoire générale du stoïcisme, avec ces volumes j'en avais assez pour la matinée. M'installant au fond, près de la fenêtre, j'étais sûre de ne pas être dérangée par les nouveaux arrivants. Comme je me sentais bien avec mes livres dans mon petit coin. Le monde entier disparaissait devant la pensée du sage. Je ne savais plus où j'étais. Je lisais et vivais d'une autre vie que ma vie banale, journalière. Voilà les joies véritables, sans mélange, qui ne laissent rien de trouble, rien de décevant. Sans doute c'est ainsi que sera notre éternité de béatitude. Nous vivrons de la pensée et des joies de la pensée. Mais les battants de la porte s'ébranlent une fois, deux fois. Mécaniquement, je lève les yeux. Puis c'est sans arrêt qu'ils vont et viennent, laissant passer en gémissant tous les spécimens de notre studieuse jeunesse. Je les regarde. Quelques types m'intéressent. Ce jeune homme avec une manche de veste qui pend à son côté, traînant aussi la jambe. Mais c'est un mutilé. Il a le front haut et pur. Il n'a qu'un seul bras. Comment va-t-il travailler? Tiens, c'est Betty maintenant. Elle cherche quelqu'un. Pourvu qu'elle ne vienne pas troubler ma retraite. Elle sourit, et c'est du mutilé qu'elle s'approche. Elle le connaît donc, puisqu'elle se penche vers lui avec une tendre bonté. Elle consulte ses notes, elle va lui prendre des livres. Un joli tableau, vraiment, que celui de cette belle jeune fille, pleine de vie, à côté de ce jeune homme, un peu pâle, épuisé par les souffrances de la guerre. L'un a déjà donné la moitié de sa vie pour nous sauver, l'autre, ange de bonté, de beauté et d'intelligence, peine aux dettes en se penchant vers un sauveur. Distraite par ses pensées, mon imagination reprend ses droits au rêve. Comme dans un éclair, elle évoque l'image de mon ami. Je le vois près de moi, il occupe la place restée vide à mon côté. Il parcourt un volume, il prend des notes comme moi, puis de temps en temps, il me tend son livre ou je lui tends le mien. C'est une pensée qui nous frappe, nous émeut, nous la faisons commune. Joie profonde, et qui dépasse, grâce à l'enchantement de mon imagination, celle que j'éprouvais il y a un instant, lorsque je croyais vivre de la pensée pure. Tant bien que mal, après cette fuite dans le pays du rêve, j'ai pris des notes, copié quelques textes. Mais la moisson n'a point payé la peine que s'est donnée le moissonneur. Non, je n'ai rien de ce qu'il faut pour vivre de la pensée pure. Dimanche 12 janvier. Ces 3 jours, je me suis maintenue dans un assez bon équilibre. Le travail a porté ses fruits. Il y a du nouveau dans notre petit groupe à la Sorbonne. Ce mutilé de la guerre que j'avais vu jeudi à la bibliothèque à côté de Betty est des nôtres maintenant. Il paraît que cette conquête n'a pas été facile à faire et qu'il a fallu pour y réussir toute la charmante éloquence de Betty. Monsieur Méruel est de Reims comme elle. Betty m'a l'air tout à fait emballée. Comme je la félicitais de nous avoir amené cette sympathique recrue, elle s'est écriée avec enthousiasme. Si tu savais comme il est simple, Mad, et pourtant c'est un héros. J'ai su par des amis comment il avait fait la guerre. Je te le raconterai un jour. Son intelligence est précise et claire. Il est entré à l'école centrale, un des premiers. La guerre l'a pris quand il faisait son service militaire. Puis, comme son âme s'est agrandie à vivre les heures du danger, l'inquiétude des grands problèmes de notre destinée l'a conduit à chercher dans la philosophie quelques lumières. C'est pour cela qu'il a songé à préparer une licence. Mais son latin l'inquiète. Il ne sait rien ou presque en grammaire, m'a-t-il dit. « Nous l'aiderons, Betty, » repris-je profondément ému de cette confidence qui me révélait tout un côté de l'âme de Betty que je ne soupçonnais guère. « Enfin, » pensais-je, « j'ai trouvé une sœur. Il n'est donc pas dit que la vie du cœur nous soit interdite à nous, les intellectuels. Nous pouvons aimer comme les autres. Le cerveau n'a point absorbé fatalement en nous les forces vives de la sensibilité. » Et pourtant n'est-ce point là le danger, l'écueil de notre formation trop exclusivement intellectuelle? Notre sensibilité est trop longtemps refoulée, contenue, et le jour où elle s'éveille, nous ne savons pas la conduire, faute d'y avoir été préparés. Nous sommes en face de l'amour comme des enfants, à l'âge où nous devrions être des femmes, et nous raisonnons comme des hommes, l'égoïsme en moins, des sentiments de tendresse dont nous détruisons ainsi toute la spontanéité et tout le charme. Oui. Betty peut être une sœur pour moi, une manière de sœur aînée qui aurait échappé au danger d'une éducation trop intellectuelle. Maintenant que je connais sa vie, je la comprends mieux. D'une famille très aisée, elle vivait à Reims avant la guerre, auprès d'une mère et d'une grand-mère qui la choyaient et lui faisaient une existence toute de douceur et de tendresse. Une fortune bien établie, des revenus sûrs, lui permettaient d'attendre l'avenir avec calme. Rien n'avait été négligé dans son éducation. Aussi, De bonne heure fut-elle bachelière, puis elle cultiva les arts, le monde, où elle connut de vrais succès. La vie lui souriait quand la guerre éclata. Ce fut la ruine pour ces trois femmes. Betty, alors, songea à prendre une carrière. Elle avait 24 ans. Elle accepta donc la vie d'étudiante plutôt qu'elle ne la choisit. C'était une nécessité, un gagne-pain possible. Elle trouva les livres après avoir connu la vie. Moi, j'ai trop fréquenté les livres et je ne connais pas assez la vie. C'est ce qui explique chez moi, et chez tant d'autres de ma sorte, un certain déséquilibre, une psychologie qui déroute ce qui nous approche, comme elle nous déroute souvent nous-mêmes. Lundi 15 janvier. Jacques est revenu. Je l'ai retrouvé plus nerveux que je ne l'avais quitté. La séparation ne lui a pas été profitable. Ah, l'équilibre, l'amour raisonnable, l'amitié, comment réaliser ce programme ? Nous étions déjà à nos places lorsqu'il entra dans la salle. Aussitôt, j'ai senti son regard me chercher, puis peser sur moi. Je me suis retournée et lui ai souri. Ma joie était profonde, mais il n'avait plus sa bonne figure. Son teint était de nouveau terreux, sa bouche maussade, ses yeux bleus qui peuvent être si doux, froids et durs. Je compris alors beaucoup de choses. Les luttes qu'il a dû livrer contre lui-même, contre sa mère peut-être, dont les goûts choquent les siens, et puis ce mouvement de contrariété qu'il dut éprouver en entrant dans la salle. Jacques est comme moi un de ces émotifs aux réactions brusques. Un rien suffit pour rompre l'équilibre de son instable sensibilité, oscillant sans cesse, comme il arrive en amour, entre la crainte et l'espoir. Or, cet infiniment petit qui avait amené la rupture, je le détermine ce soir. Je n'avais point gardé à Jacques de place à côté de moi. Notre nouveau camarade, comme par un fait exprès, était venu se mettre entre Betty et moi. Le cours allait commencer, et Jacques n'était point là. Viendrait-il seulement? Je n'en savais rien. Les trains ont de tels retards en ces temps de guerre. Je ne pouvais pas immobiliser pour lui une place qu'il n'occuperait peut-être pas. Or, Jacques est arrivé en retard. Mais il est arrivé. Et il n'a pas eu la joie qu'il escomptait sans doute de s'asseoir près de moi. De là cette impression du revoir qui fut douloureuse. Il croyait, lui parti, que la vie s'arrêterait pour moi. Il n'en fut rien. Pour moi, la vie avait continué de couler sans lui. Je suivais les cours, je travaillais, j'avais même trouvé un nouveau camarade qui ne manquait point de charme. Quelle déception! L'amour en général se croit nécessaire, il veut être cause de tout le bien qui vient à celui qui l'a choisi. L'amour est égoïste, il préférerait même qu'il n'advînt aucun bien à l'aimer s'il ne peut en être cause lui-même. Tel fut le sentiment de Jacques. Il a suivi la loi de sa logique affective. En sortant, il m'a murmuré des mots incohérents. Il n'a rien su dire d'aimable à Betty, qui lui présentait cependant, avec une joie d'enfant, son nouveau camarade Méruel. Sa figure contractée disait son trouble intérieur. Betty comprit et n'insista pas. Puis il m'accompagna à ma leçon. Nous refîmes ensemble ce trajet de la Sorbonne à la rue Saint-Dominique que nous avions fait avant les vacances avec tant de gaieté, de joie émue, et je ne lui ai rien dit de ce que je voulais lui dire. Projet de travail en commun, amitié raisonnable. Comment aurais-je pu lui parler de ces choses? Il n'avait à la bouche que des paroles de mélancolique tendresse. Il avait beaucoup souffert là-bas, loin de moi. Il avait senti toute la profondeur de son amour. Non, il ne pourrait plus vivre sans moi, et pourtant, il savait bien qu'à son amour complet, infini, je ne répondais qu'à demi. Ses paroles s'échappaient de sa bouche comme des plaintes. Je ne pouvais pas répondre et mon silence lui faisait mal. Lui montrer le fond de mon cœur, c'eût été faire jaillir l'étincelle, et pourtant, c'eût été servir la vérité, être sincère à son égard, à l'égard de moi-même. Oui, je l'aime. J'en suis sûre maintenant. Tout me le dit. Ma tristesse pendant son absence, mon dégoût de tout, puis à mesure qu'approchait son retour, mon entrain qui peu à peu me rendait la joie de vivre, enfin, des signes plus précis encore. Mon émotion, quand il est entré dans la salle, aujourd'hui même, quand il m'a serré la main, quand j'ai entendu le son de sa voix. Eh bien, soit, j'ai obéi à la raison en gardant le silence, mais en matière de sentiments est-elle bonne conseillère? Pourquoi s'arroge-t-elle le droit de dominer le cœur et d'étouffer toute passion généreuse? Elle est une puissance d'arrêt, une négation. Elle tue l'amour. Et l'amour n'est-il pas la vraie force? N'ai-je point tort de vouloir ainsi le discipliner en moi? La raison seule m'éloignerait de la joie de vivre. L'amour me chante cette joie. Si je laisse sa lumière baigner mon âme, Je vois clair en moi. Mon intelligence devient lucide, ma volonté peut tout, elle est décuplée en force. J'ai des raisons de vouloir. Au contraire, cet amour auquel je me dérobe me dresse mille pièges dans l'inconscient. Mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas tout simplement moi-même et sincère? Pourquoi tout raisonner? Pourquoi tout craindre? Pourquoi vouloir être si forte? N'est-ce point un signe de faiblesse, un signe d'orgueil? Je me sens entraînée par ma nature sensible de femme, et mon cerveau me demande d'être viril. Voilà le secret de tant de troubles, de tant de souffrances. Allons, ce sont les faibles qui sont les forts. Nous, les fortes, nous sommes les vaincus de l'amour. Nous voulons habiter les cimes et nous souffrons de leur désolante solitude. Mardi et mercredi, 16 et 17. Je ne me tourmente plus. Jacques est repris par le milieu, les idées, le travail. Le voilà qui lui aussi a choisi son sujet de leçon. Une loi scientifique n'est-elle qu'une règle d'action qui réussit? Il prétend qu'il y a là une splendide matière à discussion et de quoi mettre tout l'amphithéâtre en émoi. J'aime son entrain, sa manière de se passionner pour des questions qui touchent à nos moelles. Il s'entend à merveille avec Méruel, ils deviendront sous peu d'excellents amis. Charles Méruel a la nature qu'il faut pour servir de complément à la sienne. Sentimental comme lui, mais avec plus de modération. Il est d'ailleurs de 3 ans son aîné, et puis la guerre a fait de lui avant l'âge un fruit mûr. D'un esprit moins vif, mais plus sûr, dans toutes nos discussions, il apporte le mot juste. Et puis, sa foi de chrétien, sa foi pleine, mais tout au point. Il sait supporter son infirmité sans amertume, sans raideur, se tournant toujours vers d'autres frères qui souffrent plus que lui et qui n'ont pour se consoler ni les jouissances du cœur, ni celles de l'esprit, encore moins celles de la foi. Jacques l'admire et je crois que cette admiration sera plus efficace que tous les raisonnements du monde. Jeudi 18. Journée vraiment exquise. Nous avons été tous les quatre, Betty, Charles Méruel, Jacques et moi, à la bibliothèque. Nous avons maintenant tous les matériaux qu'il nous faut pour notre devoir sur les passions, et notre version latine est en bonne voie. Pauvre Méruel, c'est vrai qu'en latin il est absolument nul, mais il sait bien d'autres choses. Il sait ce que c'est que de faire la guerre à des ennemis cruels, sauvages, sans foi. Jacques va l'aider à travailler son latin, mais à l'avenir je crois qu'il vaudra mieux pour cette étude commune instituer de petites réunions chez moi. Aujourd'hui, à la bibliothèque, nous avons fait des mécontents, soulevé des réprobations. Nous faisions du bruit, c'est vrai, en chuchotant, en nous passant les livres, les notes. Ah, comme les yeux de Betty cherchent ceux de Méruel. Ils sont si tendres, si profonds lorsqu'ils se fixent sur lui, si joyeusement rieurs lorsqu'on plaisante, si pleins d'intelligence lorsqu'on discute idées, idées morales ou religieuses. Ils s'aiment tous deux, cela ne fait aucun doute, mais ils ignorent leur amour qui se cherche encore. Période exquise d'un sentiment qui jouit librement de lui-même car il va sans frein. Comme la lampe avait raison, moi j'ai tout gâté avec ce besoin de tout mettre au clair. Il ne me reste donc plus qu'à lutter courageusement contre un ennemi devant lequel je me suis découverte. Fin de la section 7, enregistrée par Pauline Latournerie.